Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui une fête qui est chère à nos cœurs de catholiques, la fête du Christ-Roi. Et si nous tenons à cette fête, si cette fête a une place importante dans notre âme, cela est dû en grande partie, certainement, aux prédications de Monseigneur Lefebvre, qui bien souvent nous parlait du règne de notre Seigneur. Cette fête fut instituée par le pape Pie XI en 1925. Il a voulu accompagner l'institution de cette fête d'une très belle encyclique, l'encyclique Quas Primas. Saint Pie XI, certainement, s'était inspiré ou avait fait sien les enseignements du pape Saint Pie X, qui avait pris comme devise « Instaurare omnia in Christo », tout instauré dans le Christ. Cet idéal de Saint Pie X, de faire régner notre Seigneur, l'a guidé durant toute sa vie, et spécialement à l'occasion des grandes réformes qu'il a entreprises pour le bien de l'Église. C'est aussi cette devise et ce motif qui l'a poussé à mener cette grande bataille contre les modernistes. Il voyait que les ennemis de l'Église détruisaient petit à petit le règne de notre Seigneur sur cette terre. Et Saint Pie X lui-même a puisé une partie de cette doctrine du règne de notre Seigneur chez le cardinal Édouard Pie, ce grand évêque de Poitiers au siècle dernier. À première vue, il pourrait sembler que la doctrine sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ soit assez récente, du fait qu'elle fut instituée par le pape Pie XI en ce siècle. Mais ce n'est qu'une impression. Lorsque nous ouvrons l'Évangile, nous voyons comment, sous différents aspects, est manifestée cette royauté de notre Seigneur. Il suffit de penser à la visite des rois mages qui cherchent ce roi qui est né à Bethléem et qui sont venus l'adorer, le vénérer. Pensons au dimanche des rameaux, où la population de Jérusalem acclame notre Seigneur comme un roi, lui fait une entrée triomphale dans Jérusalem. Ensuite, nous venons d'entendre dans l'Évangile, le jour du Vendredi Saint, Pilate, notre Seigneur lui dit qu'il est roi, il ne nie pas sa royauté. Et notre Seigneur lui-même nous enseigne la royauté de Dieu sur le monde. Entre autres, dans cette prière du Notre Père, qui est la prière la plus parfaite, celle qui a été faite par notre Seigneur pour nous. Et il veut que nous prions Dieu avec cette prière. Eh bien, dans cette prière, nous voyons ces paroles, « Que votre règne arrive ». On parle du règne de notre Seigneur, il doit régner sur cette terre. Et notre Seigneur nous explique que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Seigneur règnera pleinement sur cette terre lorsque tous les hommes chercheront de leur mieux à accomplir la volonté de Dieu. Nous voyons donc que cette fête du Christ-Roi a des fondements dans l'Évangile, des fondements visibles, explicites, Alors pourquoi avoir attendu tant de siècles pour instituer officiellement la fête du Christ-Roi, pour consacrer un des dimanches de l'année à cette grande fête? Est-ce un oubli de la part de l'Église? Est-ce une négligence? Certes non. Pendant des siècles, le règne de notre Seigneur, la reconnaissance de sa royauté, était cru par tout le monde. C'était une évidence. Il suffit de penser à l'époque de la chrétienté. Cette royauté de notre Seigneur était vécue par tous les chrétiens. C'était le principe même qui guidait toute société chrétienne. Et nous pouvons même dire que le rythme de vie de ces sociétés était basé sur les fêtes liturgiques, sur la liturgie. Le monde vivait sur cette liturgie. On ne parlait pas au Moyen-Âge de vacances, mais combien de fêtes il y avait durant l'année, bien plus que celles que nous avons aujourd'hui comme fêtes d'obligation. Et lorsqu'il y avait ces fêtes durant l'année, eh bien, on s'arrêtait de travailler, on s'arrêtait, on laissait les préoccupations pour se rendre à l'Église, pour solenniser ces jours, pour être tout à notre Seigneur. Les journées même étaient pour notre Seigneur la messe, l'Angélus, la prière en famille, le chapelet. Tout cela était la cadence de la vie des chrétiens. Pourquoi cela? Parce que le principe que tout baptisé avait dans son cœur était que Dieu est le premier servi. Dieu premier servi. Voilà la préoccupation des chrétiens du siècle d'or de la chrétienté. Notre Seigneur en tout passe au premier rang, et comme ça il a pu régner dans les sociétés chrétiennes, et non seulement par les fêtes, par le mode de vie des chrétiens, mais aussi par les lois qui gouvernaient ces sociétés chrétiennes. On peut dire que tous les pays chrétiens avaient comme charte le décalogue. Il était inconcevable d'avoir des lois qui soient en opposition avec le décalogue, avec les commandements de Dieu. Tout était soumis à ces commandements, et les lois civiles, les lois qui dirigeaient la société, n'étaient que des applications concrètes des commandements de Dieu. Alors, Dieu régnait aussi sur ces sociétés par ses commandements qu'on cherchait d'observer. Aujourd'hui, on parle de social, d'assistance des malades, des plus déshérités, des pauvres. Cela n'était-il pas fait aussi durant la chrétienté? Certes, et avec un esprit tout autre que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des calculs purement humains. À l'époque où la foi dirigeait la société, eh bien, on appliquait des principes que notre Seigneur avait donnés lui-même, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. On croyait en la providence divine, et en accomplissant son devoir vis-à-vis de Dieu, Dieu donnait tout ce qu'avait besoin la société. C'était le règne de la vérité, de l'enseignement. Au Moyen-Âge, pratiquement, il n'y avait que l'Église qui tenait les écoles, les universités. Donc, le primat de la vérité.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, mes frères, voici donc revenu en ce dernier dimanche d'octobre cette fête si riche pour nos intelligences, si chère à nos cœurs, si chère pour vous, chers fidèles, vous sur le champ de bataille quotidien, dans la défense des droits de Dieu, si chère à nos cœurs, nous, chers amis, si chère à notre spiritualité, si chère à notre fraternité, et si chère à notre fraternité parce que si chère à l'Église, cette fête, la fête du Christ roi. Du Christ, oui, mais c'est là l'objet, et pour employer le terme même de Pie XI dans son encyclique, c'est l'objet matériel de toutes les fêtes du Christ, de tous ces dimanches, dies domini, le jour du Seigneur, l'objet matériel, l'objet formel de cette fête, la royauté de notre Seigneur. Qu'est-ce que cette royauté? Quelle est-elle, cette royauté? Ça sera l'objet, si vous voulez, de notre méditation de ce matin. Royauté, surtout spirituelle, nous dit Pie XI. Royauté nécessairement temporelle et sociale. Et de cette double considération, nous le verrons en conclusion, devront obligatoirement sortir des résolutions pratiques, des résolutions de vie chrétienne et catholique. Car il faut, au porte-tête, il faut qu'il règne sur nous. Qu'il règne d'abord donc spirituellement, c'est-à-dire qu'il règne sur les âmes, sur chacune de nos âmes prises individuellement, royauté spirituelle sur les âmes, et dire cela, affirmer positivement la réalité de ce royaume spirituel, c'est dire équivalemment, mais en termes négatifs cette fois-ci, ce que dit notre Seigneur, mon royaume n'est pas de ce monde. Dire mon royaume n'est pas de ce monde, c'est dire qu'il s'agit d'un royaume spirituel. Et il faudra bien comprendre, d'ailleurs, attention, il faudra bien comprendre ce que veut dire notre Seigneur. Il ne veut pas dire mon royaume n'est pas sur ce monde. Non, il ne veut pas dire cela. Il veut dire mon royaume n'a pas pour origine ce monde ou n'est pas comme les royaumes de ce monde, à la manière des royaumes de ce monde, des royaumes politiques. Car précisément, la manière des royaumes de ce monde, la modalité des royaumes de ce monde, ce n'est pas spécialement leur caractère spirituel. C'est plutôt, bien souvent, hélas, de fait, l'intrigue, la ruse, l'habileté humaine, la méchanceté, le bon ou le mauvais vouloir des princes, la tyrannie, une révolution qui en chasse une autre, etc., etc. D'ailleurs, si son royaume était de ce monde, si son royaume était de ce monde, notre Seigneur aurait accepté d'être roi politique après l'extraordinaire, souvenez-vous, l'extraordinaire miracle de la multiplication des pains. Mais non, mon royaume n'est pas de ce monde, et le voilà qui se dérobe à la foule des Juifs. Si son royaume était de ce monde, pourquoi ne pas accepter les principautés terrestres? Souvenez-vous encore que Satan, le tentateur, proposait à Jésus sur la haute montagne. Mais non, va des rétro, Satanas, mon royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume était de ce monde, pourquoi ne pas applaudir au geste fier de Saint-Pierre, coupant l'oreille du pauvre soldat romain? Les Juifs, eux, et même les apôtres, et même Saint-Pierre, n'espéraient qu'une chose, mettre dehors les Romains et Jésus à leur tête, rétablir l'antique splendeur politique d'Israël. Mais non, Pierre, remets ton épée au fourreau, et Jésus de guérir l'oreille du pauvre soldat romain, car mon royaume n'est pas de ce monde. Si, en un mot, mon royaume était de ce monde, c'est l'évangile d'aujourd'hui, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais enfin, il existe. Tu es roi. Tu es rex iudeorum. Alors quel est-il, s'il existe? Oui, quelle en est la nature de ce royaume spirituel? C'est un royaume, comme le dit la magnifique préface de ce dimanche, un royaume de vérité et de vie, de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix, regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae, amoris et pacis, Et notre Seigneur, dans l'Évangile encore, « Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Mon royaume est un royaume plein de grâce et de vérité. C'est le royaume des mystères de la grâce. » Ici, mes frères, il faudrait détailler, s'attarder, illustrer un petit peu et montrer, par exemple, comment toutes les puissances de l'âme doivent être les sujets dociles et fidèles de ce royaume spirituel, l'intelligence soumise au règne de la vérité comme réduite en servitude, selon le mot de saint Paul. C'est la sagesse, l'intelligence et au niveau du jugement spéculatif ou pratique, la vertu de prudence qui nous préserve de l'illusion, par exemple. Soumission également, volonté soumise au règne de la charité, après l'intelligence, la volonté soumise au règne de la charité, notamment par les vertus de justice et de religion. Le bouillant irascible, soumis au règne doux, au doux sceptre du Sacré-Cœur du Christ-Roi. Le concupiscible, dompté également par la sainte pureté, fleur suave et lys royale de l'âme chrétienne. Tout ce programme de royauté spirituelle, finalement, c'est la vie des saints. Et nous en parlerons vendredi prochain à l'occasion de la fête de la Toussaint. C'est la vie des saints qui pourrait l'illustrer. Vie des saints, puisque ce royaume spirituel, c'est dans la direction intime de nos âmes et de ces amis de Jésus que Jésus a exercé cette royauté spirituelle de la façon la plus profonde et la plus cachée. Ce sont ces merveilles de la vie des saints qui de temps en temps apparaissent. Alors, mes chers amis, surtout vous qui êtes engagés dans les ordres sacrés, si nous savons de plus en plus nous abandonner à cette régence de notre Seigneur sur nos âmes, nous serons de plus en plus vivifiés par lui et nous comprendrons de plus en plus que le servir, c'est régner. C'est ce que dit l'évêque au sous-diacre. Le servir, c'est régner. Régner avec lui sur nos passions désordonnées, sur le monde, sur le démon. Nous comprendrons mieux, si nous comprenons cette réalité, cette nécessité de ce règne spirituel, nous comprendrons mieux tout simplement le grand mystère de la croix, car régna vite, à l'igno, Deus, Dieu a régné par le bois de la croix. Drôle de royaume, dira-t-on, le bois de la croix. Scandale pour les juifs. Folie pour les païens. Drôle de royaume, pensera l'homme du monde, qui redoute la croix, celui qui n'est pas ami de la croix, celui qui ne se sent pas concerné par l'appel du Christ-Roi, drôle de royaume. Et puis d'ailleurs, pourquoi appeler cela un royaume? Ironiquement, pourquoi appeler cela un royaume? La sainteté, la vérité, la justice, la grâce, etc., tout cela, c'est tout simplement la vie chrétienne. Tout simplement. Et l'objection nous permet de préciser encore un peu plus la nature de ce royaume spirituel, car justement, cette vie chrétienne, ce travail de la sanctification, cet exercice de la royauté spirituelle sur nous, ce travail s'organise à la manière d'un royaume, avec un roi, le Christ-Roi, avec une reine, Marie-Reine, avec des sujets, les anges et les hommes, avec des ennemis, nombreux, la foule qui crie, nous chanterons ce soir pendant l'hymne des Vêpres, la contre-église, l'anti-royaume, le démon, le monde, avec une citadelle, un château fort hors duquel il n'est point de salut, la Sainte Église catholique, et elle-même, cette Sainte Église catholique, société avec ses trois sections, l'Église triomphante, l'Église souffrante, l'Église militante, et l'Église militante est elle-même une société monarchique avec un chef, le pape, hiérarchique avec les évêques, avec des subordonnés, les prêtres, les fidèles, avec des lois, le droit canon, avec des sanctions. Tout cela en vue du salut de l'âme, en vue de la sanctification. Voilà, mes frères, ce qu'est ce royaume spirituel. Mais ce n'est pas tout. Et un père de famille, une maman éduquant ses enfants, un ouvrier, un chef d'entreprise, un employé, un enseignant, un avocat, un éducateur, un prêtre dans son ministère, un évêque dans son diocèse, pourrait répondre à ce beau programme de la royauté spirituelle. C'est bien beau et c'est très vrai en théorie, mais en pratique, comment voulez-vous faire pour y arriver alors qu'en général, Le mensonge et l'erreur règnent partout. La laideur a envahi le monde de l'art. Partout, le divorce et l'avortement et tout le reste. Ici, un nouveau droit matrimonial. Là, l'école laïque est obligatoire. Ailleurs, les horreurs de la télévision, dans beaucoup d'usines d'Europe, le règne des syndicats communistes sur les usines, sur les ouvriers, et quand ils ne sont pas communistes, ils sont socialistes, n'est-ce pas? Partout dans les pays occidentaux, ou à peu près, et en tout cas de plus en plus, Dieu a disparu du domaine public, dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans les écoles, dans les services publics. Alors, comment faire devant une telle situation? Et devant tout cela, devant, pour tout dire d'un mot, et le mot est de Pie XI, cette peste du laïcisme, devant ce cri d'alarme, la réponse est simple, la royauté nécessairement sociale de notre Seigneur. Royauté sociale. Pourquoi? Comment? Pourquoi il y a deux raisons à cette royauté sociale de notre Seigneur? Une raison qui est tirée de notre Seigneur lui-même, une raison de notre côté à nous. Pourquoi? Eh bien parce que le Christ roi a droit à l'hommage et au culte non seulement des individus, mais encore des sociétés, et non seulement des nations catholiques, mais encore de l'universalité du genre humain. Notre Seigneur a droit à cela. Ce qui fait dire au pape Pie XI, ce serait une erreur honteuse qui est de refuser au Christ homme la puissance sur les choses civiles, quelles qu'elles soient. Il a en effet reçu du Père un droit si absolu sur les créatures que tout est soumis à son bon vouloir. Voilà pour le principe. Notre Seigneur a droit à l'hommage, au culte, non seulement des individus, mais des sociétés. Seulement, la doctrine catholique précise encore ceci, dans l'encyclique Quas Primas en particulier, que pendant sa vie, notre Seigneur s'est de fait abstenu d'exercer cette autorité sur les choses humaines. Il a dédaigné la possession et la direction des choses humaines, et aujourd'hui encore, il abandonne cela, ce pouvoir aux hommes qui exercent l'autorité. Donc le principe est très clair, mais l'exercice de ce principe, voilà ce que nous en dit la doctrine catholique. Ça, c'est la raison du côté de notre Seigneur, du côté de notre Seigneur qui a droit à l'hommage de la société. Raison du côté de l'homme, évidemment, c'est la nature sociale de l'homme. Et faute de l'avoir compris, beaucoup en sont arrivés à faire de la religion une affaire simplement privé, et à être chrétien à la messe du dimanche, de 10h à 11h, à la rigueur et encore dans le cercle de la vie de famille, en tout cas pas au-delà, et surtout pas dans le milieu professionnel. Beaucoup, et c'est le libéralisme catholique, beaucoup en sont arrivés à cela. Alors cela nous amène à la question du comment. Après le pourquoi, comment réaliser cette royauté sociale de notre Seigneur? Comment réaliser cela? Évidemment, cette réalisation, elle peut varier selon que l'on exerce ou non l'autorité, selon la fonction sociale que l'on occupe dans la hiérarchie, selon la prudence personnelle et les grâces d'État de chacun. Évidemment, cela peut varier. Cependant, il y a quelques grands principes que nous livre l'Écriture sainte et la tradition liturgique, que nous livre la doctrine politique et sociale de l'Église, car elle en a une, et que nous livre la pratique historique de la civilisation chrétienne, de la chrétienté. Écoutez, dit le livre de la sagesse s'adressant au roi, au prince, écoutez au roi et comprenez. Écoutez, vous qui jugez les extrémités de la terre, vous qui êtes fiers de commander à des foules de peuples, sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur et la puissance par le Très-Haut qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées. Écoutez, ô roi, dit l'Écriture et la liturgie, que les chefs des nations, nous allons le chanter de nouveau cet après-midi, que les chefs des nations vous rendent publiquement hommage, que les maîtres et les juges vous honorent, que les lois et les arts vous proclament. L'Écriture sainte, la liturgie, mais également et plus encore peut-être pour le détail, la doctrine politique et sociale de l'Église, car l'Église a une doctrine politique. Elle n'a pas un programme politique, pas de consigne concrète à donner, c'est entendu, mais une doctrine concernant la société politique, concernant l'État, concernant les principes de gouvernement des États, les formes de gouvernement, les problèmes militaires, économiques, démographiques, la solution, par exemple, des rapports de l'Église et de l'État, la tolérance de fait, mais non point la liberté de droit accordée aux fausses religions, la distinction, mais non point la séparation de l'Église et de l'État, dont le fruit funeste est précisément cette peste du laïcisme. Cette doctrine politique, pour citer quelques exemples, se ramène pour l'essentiel à faire du décalogue la loi fondamentale de l'État, et pas uniquement les derniers commandements concernant le vol ou la justice, mais également les premiers, les droits de Dieu. Doctrine sociale également, quelle est la différence entre la doctrine politique? La doctrine politique, c'est celle qui concerne l'État, la société politique. La doctrine sociale, c'est ce qui concerne tout ce tissu de la société, tous les corps intermédiaires, les entreprises, les métiers, les professions, les écoles, les provinces, les communes, que sais-je, tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et là encore, sur tous ces points, l'Église a une doctrine précise. Et il faut préciser que cette doctrine a été vécue pendant des siècles et des siècles avant d'être explicitée par les grandes encycliques des papes, depuis 2 siècles en particulier. Et c'est l'histoire, là, qui est maîtresse de vie, c'est l'histoire de la civilisation chrétienne, de la chrétienté. Quelques exemples. Les vieilles nations chrétiennes, autrefois chrétiennes, il suffit de citer quelques saints, car de fait, ce sont eux qui ont fait nos patries chrétiennes. Saint Nicolas de Flux, Saint Louis, l'Angleterre de Saint Édouard, la Germanie de Saint Henri, la Hongrie de Saint Élisabeth, plus près de nous, les Pentes, plus tard l'Équateur de Garcia Moreno, aujourd'hui même le combat des chrétiens du Liban. Autre exemple, le travail civilisateur des missionnaires, travail indirectement civilisateur. Pourquoi indirectement? Parce que directement, les missionnaires se sont occupés de la royauté spirituelle, le salut de chaque âme, mais civilisateur nécessairement, parce que la vraie vie chrétienne doit se manifester dans tous les domaines. Alors les témoignages des missionnaires sont là, qui nous disent qu'ils ont pu voir des villages entiers, des villages païens, se transformer non seulement spirituellement, mais physiquement, socialement, politiquement, économiquement. Autre exemple encore, la grande entreprise civilisatrice de l'Amérique hispanophone, l'Amérique du Sud, dont Pie XII nous dit qu'elle fut une épopée géante par laquelle l'Espagne rompit les vieilles limites du monde, découvrit un continent nouveau et surtout l'évangélisa pour le Christ roi. L'évangélisa pour le Christ roi. Voilà quelques exemples historiques qui montrent que c'est possible. Et là, on entend peut-être le murmure des fétistes, le sourire un peu moqueur, voyez en un mot, le manque de confiance en Dieu, de notre monde moderne, contemporain. Tout cela, oui, c'est bien beau, mais c'est le passé. Le passé a jamais révolu. Par où l'on voit, mes frères, mes chers amis, rapidement, qu'il faut en venir à quelques résolutions pratiques, hic et nunc, ici et maintenant, quelques résolutions pratiques que nous devons prendre en ce domaine, que nous devons. Car précisément, la première résolution pratique est de bien saisir le caractère obligatoire, non facultatif de cette royauté de notre Seigneur. Sur ce chapitre aussi, sur ce chapitre de la royauté de notre Seigneur, nous serons jugés. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour mon règne? En toi d'abord et puis dans la société. Et cela en vertu du caractère baptismal et de la confirmation également en vertu de notre état de soldat du Christ, en vertu de la charité envers Dieu et envers le prochain. Car il ne faut jamais les séparer. Et c'est le deuxième point, la deuxième résolution pratique que nous devons prendre. Ne jamais séparer la charité envers Dieu et la charité envers le prochain, ne jamais séparer la royauté spirituelle de la royauté sociale, et vice-versa, et vice-versa. La royauté spirituelle sans la royauté sociale, c'est une sorte de laïcisme baptisé, catholique en privé, oui, mais pas en public. Voilà ce que ça veut dire. Si on s'en tient uniquement à la royauté spirituelle, sans la royauté sociale, catholique en privé, mais pas en public, Dieu, mes frères, nous en préserve. Au contraire, la royauté sociale, sans la royauté spirituelle, et c'est plus délicat, La royauté sociale sans la royauté spirituelle, c'est opérer une bizarre division en nous et dans le Christ. Oh, le Christ n'est pas divisé, dit saint Paul. Cela peut conduire même à une sorte, oh le Christ, une sorte de naturalisme pratique. À quoi bon la sainteté, la grâce, la vérité, la justice et tout l'appareil de la royauté spirituelle? À quoi bon tout cela, puisqu'au fond, finalement, avec quelques bons principes de droit naturel, quelques bonnes idées saines, en définitive un peu de bon sens et un peu de bonne volonté, suffisent à rétablir un ordre normal des choses. Et on s'en tient au droit naturel, éventuellement la doctrine sociale de l'Église. Attention, du point de vue politique, certes, cela est un premier pas, souvent un moindre mal, de qualité plus ou moins supérieure, mais ne peut-on penser que de fait, beaucoup de tentatives de restauration, plus ou moins conformes à l'ordre naturel et la doctrine sociale, ont échoué parce qu'il manquait à la racine, chez les individus, le royaume de vie, de sainteté, de justice, le surnaturel, en un mot. Conséquence pratique pour vous, mes chers amis, qui allez vous lancer dans quelques mois, dans quelques années, dans l'apostolat, sur le terrain. Conséquence pratique, c'est saint Alphonse qui parle. Si je parviens à gagner un roi, j'aurais plus fait pour la cause de Dieu que si j'avais prêché des centaines et des milliers de missions. Ce qu'un souverain touché par la grâce de Dieu peut faire dans l'intérêt de l'Église et des âmes, 1000 missions ne le feront jamais. C'est saint Alphonse de Liguori qui parle, et ses paroles sont fortes, comme vous le constatez. Prêchons la royauté spirituelle. D'ailleurs, nous en sommes les ministres officiels de l'Église, la royauté spirituelle dans les âmes. Prêchons les principes de la royauté sociale, les principes, et puis pour la pratique, eh bien, cela concerne les fidèles, les laïcs. Alors pour vous, mes frères, c'est vous qui êtes appelés quotidiennement. Sur le champ de bataille, vous avez été appelés à la croisade. Répondez généreusement avec la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Soyez à la fois audacieux et habile, prudent, pour savoir quelles sont les possibilités concrètes pour vous-même, dans votre travail de royauté spirituelle, de votre sanctification personnelle, dans vos familles. Quelques exemples: prière en famille, éducation chrétienne des enfants, observation des saintes lois du mariage, mesures qui s'imposent au sujet de la télévision. Tout cela, c'est la royauté sociale de notre Seigneur, ça ne fait aucun doute. En vous-même, dans vos familles, dans la société, intervention publique au moment des votations, des élections, utilisation des médias, formation des élites, et tant d'autres moyens que votre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ roi vous inspirera. L'amour du Sacré-Cœur vous inspirera cela pour qu'il règne. Dernière conclusion pratique, celle-là, elle vaut pour tout le monde, pour tous. Prions. Car, voyez-vous, la royauté spirituelle, la vie spirituelle est le fruit de l'oraison. Vous le savez bien. Et bien de même, l'action sociale, l'action politique, la politique chrétienne sont aussi le fruit de la vie intérieure. Alors l'action politique, l'action sociale, mes frères, devient charité politique, et le mot encore est des papes. La charité politique. Le mot est de plusieurs papes, Pie XI et Pie XII en particulier. Et ils ajoutent que de la forme donnée à la société dépend le salut ou la perte du plus grand nombre. Combien fortes sont ces paroles ? De la forme donnée à la société dépend le salut ou la perte du plus grand nombre. Est-ce que cela ne doit pas exciter notre charité ? Notre charité ? Alors prions dans ce sens, prions la Vierge Marie, la Vierge du Rosaire, la Vierge de Lépante, prions Notre-Dame, patronne de tant et tant de nos pays, de nos provinces, de nos cités, de nos églises. Prions par la messe plantée au cœur de la royauté spirituelle, de notre vie intérieure, de notre sanctification. Prions par la messe plantée au cœur de la civilisation chrétienne. Regnavit aligno Deus. Prions le cœur immaculé, car à la fin, Notre-Dame nous l'a dit à Fatima, il triomphera. Prions la Vierge du Magnificat, c'est-à-dire celle de l'humilité. Car si les hommes combattent et doivent combattre, celui qui donne la victoire, c'est le Christ roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, messieurs, mes bien chers frères, cette fête du Christ roi que nous célébrons aujourd'hui a été introduite par le pape Pie XI en 1925. Était-ce une innovation? La royauté du Christ était-elle une vérité nouvelle? Pie XI a-t-il introduit dans le calendrier liturgique une dévotion nouvelle? En fait, non. Ce n'est pas une dévotion nouvelle parce que la fête traditionnelle de la royauté du Christ est une des plus anciennes de l'Église, au moins aussi ancienne que celle de Noël. La fête traditionnelle de la royauté du Christ, c'est la fête de l'Épiphanie. Car dans l'hommage des trois rois, nous voyons l'hommage de tous les peuples et de tous les princes au roi des rois. Les mages offrent l'or à Jésus pour reconnaître sa royauté. Quelle a donc été l'intention de Pie XI en introduisant cette fête du Christ-Roi? C'est qu'un des aspects de la royauté du Christ était en train de tomber dans l'oubli. À notre époque de laïcisme et d'athéisme, il fallait et il faut rappeler ce qui autrefois était évident pour tout chrétien, à savoir que le Christ règne sur la société. Si la religion et la vie politique, si l'Église et la société civile sont distincts, ils ne sont pas séparés. Il faut savoir gré à Pie XI de l'avoir rappelé dans cette magnifique encyclique, même si tous les actes de gouvernement de son pontificat n'ont pas été à la hauteur de cette encyclique. Cette doctrine oubliée ou mal connue, il nous faut la considérer aujourd'hui. Alors nous essayerons d'en voir successivement les sources, le contenu et les conséquences pratiques pour aujourd'hui. Les sources de la royauté du Christ, c'est l'incarnation et la rédemption. Le Christ est roi parce qu'il est Dieu et homme, et le Christ est roi parce qu'il est rédempteur. Le Christ est roi parce qu'il est Dieu et homme, parce qu'il est Dieu, il est roi. Et parce qu'il est homme, il est un roi humain. Son règne est le règne d'un homme. La nature humaine du Christ est investie de la royauté, car elle est celle d'un Dieu et donc d'un roi. La royauté du Christ n'est pas seulement la royauté de Dieu, mais elle est bel et bien la royauté d'un homme véritable, possédant un corps et une âme. Royauté d'un homme qui peut dire en toute vérité, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Car, même s'il possède la puissance absolue comme Dieu, de par sa nature humaine, il peut dire qu'elle lui a été donnée. Et donc, sa royauté n'est pas seulement spirituelle, mais aussi temporelle, car l'homme vit dans le temps. L'homme n'est pas un pur esprit, et donc la royauté du Christ s'étend sur tout le champ de la vie humaine, sur la vie individuelle, personnelle, mais aussi sur les vies sociales et politiques. L'homme est social, la société est connaturelle à l'homme, c'est-à-dire que l'homme est nécessairement social par nature, et donc la société aussi est soumise à la royauté du Christ. Le Christ est roi aussi parce qu'il est rédempteur. Il est rédempteur, c'est-à-dire que l'homme ne peut se sauver que par Jésus-Christ. L'homme ne peut accéder à la vie surnaturelle, à la vie éternelle que par Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur, et donc l'homme ne peut être sauvé de la mort éternelle et délivré de son péché que par le recours à Jésus-Christ. La nature ne peut être guérie que par la grâce, sans la grâce. Et donc, sans Jésus-Christ, il est impossible de s'abstenir du péché de façon durable et sérieuse. Même en cette vie, même pour la vie d'ici-bas, l'homme a besoin de Jésus-Christ pour combattre le mal et faire le bien. Et par conséquent, la vie sociale, la vie politique elle-même, ne peut pas se passer de Jésus-Christ. C'est ce que répondait le cardinal Pie à Napoléon III. Sire, en substance, le cardinal Pie disait ceci, « Sire, je ne sais pas si le moment est venu pour Jésus-Christ de régner. Je ne suis pas un politique. Vous êtes un politique, vous me dites que le moment de son règne n'est pas venu, je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je sais, et là je cite les paroles du cardinal Pie, le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, alors le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. Sans le Christ, la société ne peut pas durer et ne peut pas assurer le bien commun. » Ainsi donc, le Christ est roi de la société parce qu'il est Dieu et parce qu'il est rédempteur. Telle est la source de la doctrine politique de l'Église, car l'Église a une doctrine politique. L'Église n'a pas un programme politique. Elle n'a pas de solutions concrètes à proposer aux problèmes actuels. Encore moins peut-elle donner des consignes électorales. Mais elle a une doctrine, c'est-à-dire des principes fondamentaux quant à la nature et au but de la société et du gouvernement. On l'appelle en d'autres termes la doctrine sociale de l'Église. Et cette doctrine sociale de l'Église ne date pas, comme on pourrait le croire, comme parfois on le croit, cette doctrine sociale de l'Église ne date pas de Léon XIII. L'Église n'a pas entendu le XIXe siècle pour se préoccuper de la justice, de l'économie, du capitalisme, du libéralisme et du gouvernement des peuples. Toute la renaissance de la civilisation après les invasions barbares, toute l'œuvre du magistère et des théologiens, toute la construction qui a été faite par les moines et par les évêques est là pour témoigner de l'existence, de la fécondité et de la vitalité de la doctrine politique de l'Église. Doctrine qui fut vécue avant même d'être explicitée. Il nous faudrait alors exposer toute l'histoire de la chrétienté depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la fin des persécutions jusqu'à nos jours. Ce serait toute l'histoire de l'Église. Voici la source de cette doctrine, donc. La rédemption et l'incarnation. Donc le Christ règne sur la société, sur la vie politique. Mais quelle est cette doctrine? Quel est l'enseignement politique de l'Église? Alors essayons d'en saisir quelques points essentiels concernant l'État, concernant l'autorité, concernant la famille et enfin concernant les corps intermédiaires. Quel rapport y a-t-il entre l'Église et l'État? En fait, nous l'avons déjà dit, le Christ règne sur la société. Par conséquent, l'État est soumis au règne du Christ, ce qui veut dire pratiquement que la religion catholique, qui est la religion du Christ, est la religion officielle de l'État. L'État est catholique. Les magistrats ne sont pas seulement catholiques à titre privé, ce qui du reste n'est pas absolument nécessaire. Mais ils le sont dans l'exercice même de leurs fonctions. L'État ne peut pas être séparé de l'Église. Cette profession officielle de religion de la part de l'État entraîne le respect de la loi de Dieu dans les affaires publiques. Le décalogue est la charte et le fondement de l'État. Ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme, mais c'est le décalogue qui est la loi fondamentale de l'État. Et par conséquent, l'État veille au respect de la morale naturelle. Les lois sont l'application concrète et particulière du décalogue. L'économie, le travail, la famille, la morale publique, en un mot, sont conformes aux exigences de la justice et de la loi de Dieu. L'État réprime l'immoralité et facilite la pratique du bien. C'est pourquoi l'État catholique n'admet pas la propagande immorale et antireligieuse. Il s'oppose à la propagation et à la profession publique de l'erreur, et donc éventuellement de l'hérésie et de l'infidélité. Les fausses religions et les fausses philosophies sont les ennemis publics, ennemis aussi bien de l'Église que de l'État. L'erreur n'a aucun droit. Les fausses religions n'ont aucun droit. Il n'y a pas de droit naturel à la liberté religieuse pour toutes les religions indistinctement. Seule l'Église catholique possède d'elle-même ce droit à la liberté religieuse. Et nous pourrions citer ici une foule de documents de la tradition et du magistère. Cela veut-il dire que l'État catholique exercera une persécution à l'égard d'autres religions? Eh bien, notons tout d'abord que l'intime de la conscience et la vie privée de la famille ne sont pas du ressort de l'État, et qu'il ne peut donc pas intervenir. C'est pourquoi l'Église n'a jamais admis les dragonnades de Louis XIV, pas plus que certains procédés de l'empereur Charlemagne, qui attaquaient le fort intime de la conscience ou le fort intime des familles. Mais il est vrai que la propagande et la profession publique d'hérésie ou de fausse philosophie n'a aucun droit à exister. Et si l'État catholique les tolère, c'est pour éviter un plus grand mal que serait une guerre civile ou une brisure de la société. L'État peut tolérer l'hérésie, l'État peut tolérer les fausses religions, oui, mais il les tolère comme un mal, il les tolère comme il tolère les maisons de tolérance. C'est la prudence politique ici qui intervient, ce n'est pas le droit naturel. Et si l'État protège la religion, si l'État protège l'Église, l'Église à son tour assure le bien de la société. C'est l'Église qui est le ferment de la civilisation. C'est la religion qui fonde les vertus sans lesquelles l'État ne saurait subsister. Honnêteté, piété, patriotisme, sacrifice, justice, tout cela en définitive est fondé sur le Christ et sur l'Église. L'équité des magistrats, la fidélité des soldats, l'entraide et la solidarité entre les citoyens et les citoyens, voilà ce que l'Église apporte à l'État. Nos patries, nous pouvons le constater historiquement, ont été faites par les saints. Saint Rémy, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Nicolas de Flux, Saint Étienne de Hongrie. L'État et l'Église, s'ils sont distincts, ne sont pas séparés. Et la première victime de la séparation et de la laïcité, ce sera l'État. C'est l'Église qui est à l'origine de la civilisation. C'est l'Église qui est à l'origine des plus beaux fleurons de la civilisation que sont les cathédrales et les universités. Et puis nous pourrions passer en revue tous les arts, et la musique en particulier. L'autorité aussi repose sur l'Église. L'autorité repose sur l'Église. Non pas que le clergé ait à exercer une autorité politique. Catholique ne veut pas dire cléricale. Et le clergé est en général plutôt incompétent en pareille matière, sauf exception. Mais c'est l'Église qui donne à l'autorité son caractère sacré. Car l'autorité, même l'autorité civile, est exercée au nom de Dieu. Non est potestas nisi adeo, dit saint Paul. Il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, qui ne vienne pas de Dieu. L'autorité, celle du prince comme celle du père de famille, est sacrée. Et c'est ce que l'Église a toujours reconnu. Nous en voyons le témoignage par l'onction du sacre royal, nous le voyons aussi dans les cérémonies religieuses qui accompagnaient la réunion des Landsgemeinde dans la Suisse primitive. L'Église rend sacrée et légitime l'autorité. Le pouvoir est de droit divin. Le pouvoir est de droit divin, que ce pouvoir soit monarchique, aristocratique ou démocratique. Il s'exerce toujours au nom de Dieu, toujours au nom du Dieu Tout-Puissant que l'Église représente. Et il faut donc se féliciter que certains pays, dont en particulier la Confédération helvétique, aient leur constitution qui commence par ces mots « au nom du Dieu Tout-Puissant ». Ainsi donc, même en démocratie, le pouvoir est sacré. C'est pourquoi, si le choix des magistrats et des programmes politiques peut être objet d'élection, et ceci ne s'oppose en rien à la doctrine de l'Église, la doctrine politique elle-même, la morale et la religion ne peuvent pas être objet d'élection. La démocratie, telle que l'Église l'accepte, c'est celle qui reconnaît la royauté du Christ, la souveraineté du Christ. Et si donc l'unité doctrinale d'un pays est insuffisante, alors la démocratie devient un fléau. Car ce ne sont plus les hommes et les programmes qui sont élus, ce qui serait tout à fait normal, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mis au rang des faux prophètes, des fausses doctrines. La démocratie peut être sacrée si elle est catholique, sinon elle est perversité. État, autorité. La famille. La famille est le siège de la première autorité, celle qui est présupposée à toute autre autorité sociale et qu'aucune ne peut supprimer, l'autorité du père de famille. L'État protège et soutient l'autorité familiale. Il doit lui laisser les moyens de vivre et de s'épanouir. La liberté de la famille. Et c'est sur la liberté de la famille, sur les droits de la famille que se fondent la propriété familiale, la législation du travail, la législation économique. Économie veut dire étymologiquement la loi de la maison. Autrement dit, l'économie est pour les familles, elle n'est pas pour la puissance des individus, elle n'est pas pour la puissance de l'État, elle n'est pas pour la puissance des sociétés multinationales. Et puis enfin, entre la famille et l'État, il existe une foule, un tissu complexe et varié de sociétés intermédiaires. Ce sont les entreprises, les métiers, les professions, les communes, les provinces, les cantons. Toutes ces sociétés ont des noms divers selon les circonstances historiques et géographiques, mais peu importe. Ce sont elles qui constituent toute la vie quasi biologique du corps social. Ce ne sont pas des subdivisions administratives, mais chacune est souveraine en son domaine. La société catholique, la cité catholique, est l'inverse de l'État moderne centralisateur où l'individu n'est qu'un élément. La société catholique est un organisme vivant composé de multiples cellules et unies dans l'État par l'Église. C'est pourquoi Saint Pie X, dans sa lettre Notre Charge Apostolique, lettre qui condamnait le sillon, disait ceci. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne la bâtit. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige pas les travaux. Non, la civilisation n'est pas à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Voilà comment parlait Saint Pie X au début de ce siècle. Mais nous nous posons tout de suite une question. Comment ? Comment opérer cette instauration, cette restauration ? La tentation est forte, bien sûr, aujourd'hui, de considérer cette doctrine comme un pieux rêve dépassé, un idéal utopique. c'est impossible, diront certains. Disent beaucoup de catholiques. L'Église doit abandonner ses prétentions. Elle doit se contenter d'une humble place dans le cadre de la démocratie libérale ou socialiste. Elle doit se mettre au rang des autres religions. Elle doit se contenter d'un siège ou d'un strapontin dans ce qui serait comme une union des religions. Et bien plus, non seulement l'Église doit se contenter d'une place secondaire, mais on fait entendre à ses oreilles cette tentation que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a entendue pendant le désert, la troisième tentation du désert. « Omnia tibi dabo si cadens adoravirisme »« Je te donnerai tout cela si tombant à mes pieds tu m'adores. »« Je te donnerai tout cela, je te ferai respecter et admirer, ô Église, je t'apporterai l'hommage des peuples, ô Église, moi la démocratie, moi la révolution, si cadens adoravirisme »« Si tu t'abaisses, et si tu m'adores, c'est le fameux rapprochement blasphématoire de l'Évangile et de la Révolution. Vade Satana. Vade Satana. Nous ne trahirons pas l'Église, nous ne trahirons pas le Christ. Nous refusons cette apostasie, nous refusons cette trahison, trahison de l'Église et trahison de nos patries. Car nous savons que le salut de nos patries passe par la rédemption, passe par le Christ. Cette doctrine du Christ-Roi, nous la tenons et nous la prêchons. Et nous savons que la vérité est forte par elle-même et qu'il n'y aura pas d'autre solution au salut de la société que la restauration de la chrétienté. Et que faire concrètement alors, aujourd'hui? Eh bien, d'abord prier. Prier parce que nous savons que tous les actes humains dépendent en définitive de Dieu. Prier donc, prier Notre-Dame du Rosaire, prier la Vierge de Lépante. Car nous ne devons pas oublier que ce qui est vrai de l'action politique... ce qui est vrai de l'action apostolique est aussi vrai de l'action politique, à savoir qu'elle doit être le fruit de la vie intérieure. Une action politique qui n'est pas fondée sur la vie intérieure est vouée au départ à l'échec. Prier, mais agir également. La piété est utile à tout, mais elle n'est pas suffisante. On dit bien parfois que le rosaire est un fusil à 50 coups. Sans doute. Mais je doute fort que nos amis du Liban se contentent de ce fusil-là. Alors que faire? Eh bien, se souvenir que le pouvoir ne se prend pas, mais il se reçoit. Or, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, les catholiques n'ont pas parmi eux suffisamment d'hommes capables de s'imposer par leurs compétences doctrinales, professionnelles, économiques et politiques. La piété ne suffit pas. La première tâche sera donc pour nous de former des élites. De former des élites qui le soient non seulement par la piété, qui le soient d'abord par la piété sans doute, mais non seulement par la piété, mais aussi par leurs compétences. Compétences en premier lieu dans leur devoir d'État, et puis compétences doctrinales, compétences dans l'aptitude au gouvernement. Alors ces élites pourront un jour, peut-être pas si éloignées, assumer des responsabilités qu'on sera trop heureux de leur confier quand il deviendra évident qu'ils seront les seuls, pas trop heureux de leur Christ et par la doctrine sociale de l'Église, à pouvoir sauver la société du désastre. Élite qu'il faut former, que ce soit dans les mouvements de jeunesse ou que ce soit dans des cercles de chefs de famille. Que des chefs de famille se réunissent pour étudier la doctrine de l'Église et pour se concerter sur la situation politique de leur pays. Ce sont là des réalisations concrètes qui porteront de fruits dans l'avenir. Et Pie XII n'a fait autre chose que pendant tout son temps pontificat que d'appeler à la constitution de ces cercles de chefs de famille. Se souvenir aussi que l'action requiert de bannir toute attitude de sectarisme. Pour cette restauration de la chrétienté, nous devons pouvoir compter sur tous les hommes de bonne volonté. N'oublions pas que certains agnostiques ont plus fait pour la royauté du Christ que certaines pieuses personnes. En ce monde, ici-bas, rien n'est absolument pur, à part la vie intérieure. En ce monde, rien n'est absolument pur, rien n'est absolument sain. À ne vouloir que la perfection, surtout en politique, on se condamne au sectarisme, à l'isolement et à l'échec. La cité médiévale s'unissait dans la construction des cathédrales. Aujourd'hui, ce n'est pas une cathédrale de pierre qu'il faut construire, parce qu'il faut d'abord construire la cathédrale politique, avant de construire la cathédrale de pierre. Puisse-t-il y avoir en nous cette énergie des grands bâtisseurs, cette force, cette charité en un mot, qui est le principe de la divinisation du monde. Charité. Charité personnelle sans doute, mais aussi charité politique. Oui, charité politique, le mot est des souverains pontifes eux-mêmes. Charité politique qui fera de la cité terrestre la préparation de la cité céleste, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.